Bon après-midi, bien. Je parle trop fort, hein?
Non.
Ma voix est peut-être un peu bizarre. Je ne sais pas parce que je suis en phase terminale, mais je fais une allergie. Alors, il se peut qu'il y ait des petits accros, ça et là. Mais par la grâce de Dieu, on devrait être bon pour faire le travail aujourd'hui. Un heureux travail. On chantait tout à l'heure, vous savez, un cantique qu'on n'a pas chanté depuis très longtemps. On chantait tel que je suis. Quand j'étais nouveau chrétien, moi, dans les années 70, on chantait ça à peu près à chaque culte. Hein? Et c'était surtout un cantique d'appel. Lorsqu'on faisait l'appel à l'autel, on chantait tel que je suis, sans rien à moi. Mais c'est tout un cantique. On est très familier avec ce cantique-là, mais il y a tout un message là-dedans. J'ai été ému quand on l'a chanté. Tantôt. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. C'est toute une affirmation, bien aimé. Si on connaît minimalement notre cœur, est-ce qu'on dit, tiens Dieu, mon cœur, hein? On serait un peu hésitant avant de lui offrir ce cadeau-là. Imaginez que vous êtes un père, vous avez un petit enfant de 4-5 ans, et vous lui demandez de vous apporter un verre d'eau. Il prend un verre tout à fait sale, il met de l'eau polluée dedans, il vous apporte ça, il y a deux doigts qui trempent dedans. Vous le recevez avec joie parce que vous l'aimez. C'est par amour que Dieu a pris nos cœurs bien imparfaits. Mais il ne les a pas laissés ainsi. Hein? La strophe se termine ainsi. Pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Alléluia. C'était ma prédication d'aujourd'hui. Merci, frère. Merci beaucoup. Heureux d'avoir des visiteurs encore aujourd'hui. C'est toujours agréable. On a même dans cette noble salle, on a même un diacre de la ville de Québec, notre frère André Genoux avec son épouse France, qu'on salue chaleureusement. Ça fait grand plaisir de vous avoir avec nous. On a également la maman et la sœur de Gaëlle. On a la sœur de... d'Étienne. Voilà. Et à tous les autres aussi, qui sommes là chaque semaine, une cordiale bienvenue. Et on a bien sûr notre Thierry qui nous visite aujourd'hui. Nous allons poursuivre notre démarche, pour ne pas dire notre course, parce qu'on le voit quand même assez rapidement, dans le livre de l'Apocalypse, et nous allons aujourd'hui terminer le chapitre 18. Il y en a 22, on s'approche de la fin. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette expérience-là. Pour moi, c'est extrêmement bénissant de prêcher l'Apocalypse. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. C'est un livre que je ne voulais surtout pas aborder. Je le trouvais tellement, pas mystique, mystérieux, point à la ligne. À l'époque, on l'interprétait à la lumière du journal d'aujourd'hui. Là. Même Calvin, même pas osé faire un commentaire sur l'Apocalypse. Voilà, je n'étais pas le premier. Mais lorsqu'Amar Djabella, pour ceux qui l'ont connu à la faculté, me dit, tu es le seul professeur de systématique au Québec à l'époque. Je veux que tu enseignes l'eschatologie. J'ai pas eu le choix de m'y plonger. Et vraiment, je suis reconnaissant au Seigneur pour ce beau livre-là. J'en trouve pas de plus encourageant dans la parole de Dieu que ce livre-là, chaque semaine, chaque deux semaines ou chaque trois semaines, lorsqu'on le sonde ensemble. Alors, nous allons lire aujourd'hui, au chapitre 18, je dis bien, les versets 9 à 24, nous irons jusqu'à la fin du chapitre, Apocalypse 18, versets 9 à 24. Seigneur, daigne dans ta bonté. Parce que c'est ta parole que tu nous as donnée et révélée. Daigne faire la lumière dans nos cœurs pour qu'on la reçoive correctement. En Jésus-Christ, amen. Alors, on a vu les versets 1 à 8 il y a 15 jours. Hein? On va donc terminer le chapitre aujourd'hui. C'est un tout quand même, on va en parler tantôt. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur !» La grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleureront et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âme d'hommes. Est-ce qu'on parle d'une société de consommation ici? Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur !» La grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient « Malheur, malheur! La grande ville où se sont enrichis par son opulence, tous ceux qui ont des navires sur la mer en une seule heure » a été détruite. Ciel, réjouis-toi. On change de discours. C'est plus des gens qui pleurent ici. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors, un ange puissant prit une pierre, semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan, d'un métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Car tes marchands étaient les grands de la terre, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et l'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Fin de la parole, de la lecture de la parole du Seigneur. On l'a dit, je le répète, question de se remettre au parfum, n'est-ce pas? Les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse nous parlent de la chute de Babylone. Et on prend quelques chapitres pour le faire. C'est tout un événement, vous savez, hein? C'est la fin de notre monde présent. C'est la fin de toute notre dispensation présente, parce que ce que l'Apocalypse nous rappelle, c'est tout ce qu'on vit entre les devenus du Christ Jésus. Donc, Babylone, c'est cette culture anti-Dieu. Cette culture anti-Église qui prévaut depuis le péché d'Adam et qui prétend à la suffisance de l'être humain et qui dirige les gens vers l'adoration de la bête. Si on n'adore pas Dieu, c'est la bête. Rappelons-nous que tous les êtres humains sont des adorateurs. Il n'y a personne qui peut dire qu'il est complètement inoculé contre l'adoration. Nous sommes tous des adorateurs, et si nous n'adorons pas notre Dieu, ben nous adorons une idole quelque part, vous voyez? On adore une autre divinité. Cet esprit d'humanisme, d'abord exprimé à Babel, a toujours imprégné l'histoire de l'humanité. Babylone, c'est pas seulement qu'une ancienne ville. Babylone, c'est pas seulement qu'un empire puissant, et ça n'était un. Babylone, ce n'est pas qu'une ancienne ville et un empire puissant, c'est le symbole de la rébellion humaine contre Dieu. C'est la représentation de tout le système du monde, de tout le système de la bête, dans ses aspects économiques, politiques et religieux. Rien n'y échappe. Et voilà que dans ce chapitre 18, nous avons enfin l'annonce de sa chute. Versets 1 et 2. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée! Elle est tombée! » Babylone, est-ce qu'on peut baisser un peu le microphone? Il me semble qu'il y a un petit écho. Est-ce que c'est une réverbération? Et la meilleure façon d'aborder ce chapitre 18, bien sûr, serait de le voir dans son ensemble, comme on disait il n'y a pas longtemps. Mais comme il y a beaucoup de matière, il nous a paru bon d'en faire une présentation en deux parties. On aurait pu même faire quatre parties, mais on l'a fait en deux. Parce qu'en effet, ce chapitre-là nous présente trois sortes de réactions conséquentes à la chute de Babylone la Grande. Il y a 15 jours, on a vu la première réaction. Aujourd'hui, on va voir les deux autres. Il y a deux semaines, alors que nous nous sommes arrêtés au verset 1 à 8, nous nous retrouvions devant la réaction ordonnée au peuple de Dieu. Et quelle était cette ordonnance-là de Dieu, hein? Cette directive que Dieu nous donnait, verset 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle. » Mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Et nous avons consacré une grande partie du message à insister sur le concept de séparation, non pas de séparation de, mais de séparation pour. Vous savez, cette semaine, je parlais avec un ami de l'Église de Québec, un médecin, qui me racontait que son petit-fils voulait devenir médecin. Alors, il est allé pour passer les examens en fonction d'une acceptation à l'école de médecine, vous voyez? Alors, c'est quelqu'un qui joue dans les 95 à 98%, vous connaissez la famille, hein? Ils sont capables. Hein? Alors, il performait énormément, aucun problème dans les examens, sauf que est venu le temps où acceptez-vous les transgenres? Acceptez-vous l'eugénisme? Enfin, on appelle ça maintenant le... L'aide à mourir, voilà. L'aide à mourir, subtil. Ou encore l'avortement. Et il a dit non, je ne peux pas m'associer à cela. On l'a fait échouer. Alors il doit se relocaliser. Mais la Bible nous l'a dit, ça. La Bible nous a dit que si tu ne mets pas tes souliers, tes talons, dans les jurons du 666, tu vas être marginalisé. Hein? En termes plus concrets, on a dit, tu ne pourras plus travailler, on ne pourra plus manger, on va te marginaliser, on va te mettre de côté. Il y a des décisions à prendre pour un chrétien. Nous avons tous nos ambitions, on veut tous réussir, et alléluia! Ça fait partie de nos gènes, c'est normal qu'il en soit ainsi. Il n'y a personne qui dit, j'ai assez hâte d'échouer, hein? On veut tous une réussite sociale. Mais à un bon moment donné, il y a des positions qu'il nous faille prendre, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Quel qu'en soit le coup, c'est une carrière au complet qui vient de passer sous ses pieds, là, ce jeune garçon-là. Aujourd'hui, après cette réaction, donc, du peuple de Dieu, c'était mon premier point, nous verrons les deux autres réactions. Nous allons voir la réaction des habitants de la terre, versets 9 à 19, et celle dans les lieux célestes, versets 20 à 24, trois différentes réactions. Trois différentes réactions selon la relation que ces habitants-là entretenaient avec Babylone et avec le monde. Donc, mon premier point, l'angoisse des impies devant la fin de Babylone, versets 9 à 19. Ce sera mon point le plus long, d'ailleurs. Qu'entend-on par impie? On parle bien sûr des inconvertis. On parle de ceux et de celles qui ont vécu dans l'indifférence face à Dieu, ou dans la rébellion ouverte face à Dieu. Il n'y a pas de différence. Notre indifférence face à Dieu, c'est de la rébellion ouverte. On parle de tous ceux et celles qui ont vécu selon leurs propres règles. Ne venez pas me dire quoi faire. Hein? On parle de ceux et celles qui ont vécu selon leur propre religion, même si elles semblaient, ou ils semblaient très pieux dans leur religiosité. Il faut toujours garder à l'esprit qu'on ne peut entrer au ciel sans naître d'en haut, sans naître de nouveau. Enfin, littéralement, c'est naître d'en haut. Le mot « anothen » veut dire naître d'en haut. Jésus dit dans Jean 8, « Vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. » C'est le mot « anothen ». Et ce n'est qu'en Christ Jésus, donc, que ça se passe. Parce que lui seul a mérité le salut mis à notre compte. Lui seul a mérité cette justice qu'il nous a imputée, pour reprendre l'expression biblique. Alors, nous entrerons au ciel parce que nous sommes en Christ. Aucune autre raison. Au moment de la rédaction de l'Apocalypse, vous savez, la ville de Babylone, c'était même plus un village, hein, c'était des ruines en quelque sorte, avait depuis très longtemps été détruite. Babylone symbolisait donc, au moment où Jean écrit, la Rome impériale. Et Rome, c'était la cité puissante, c'était aussi la cité décadente, c'est ce qui arrive généralement avec les grandes cités. Pourquoi est-ce que ça arrive ainsi? Parce que plus vous avez de monde dans la dépravation totale, plus on se donne le moyen de l'exprimer de cette façon-là aussi. Hein. Alors Rome, c'était extrêmement décadent, la Rome impériale, cette cité puissante et décadente qui exerçait sa domination sur le monde méditerranéen au 1er siècle. Rome, tout comme Babylone, se présentait comme un symbole du royaume satanique. On n'aime pas beaucoup employer le mot satanique, on a l'impression que c'est excessif. Mais c'est une réalité, vous savez. Ce qu'on appelle le sécularisme idolâtre, c'est le monde satanique. Hein? Et ce que nous entendons ici, ce sont les lamentations de ceux qui ont festoyé à sa table. Verset 9. La première lamentation nous est rapportée, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Ce sont ses princes, ce sont ses clients, si vous me passez l'expression, qui se reposaient sur l'Empire pour leur prestige et pour leur puissance. Et bien sûr, ça inclut les autorités, les provinces d'Asie où se trouvaient les églises auxquelles Jean s'adresse. Ces dirigeants-là, par motif d'intérêt, avaient embrassé la corruption de Rome. C'est ce que le monde fait. On entre dans le rang. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se lèvent, vous savez, pour contester. On entre dans le rang. C'est beaucoup plus facile. Hein? Et voilà que maintenant, ils se lamentent. Se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu son jugement. » C'est pas qu'ils aient une grande compassion pour Babylone, vous savez. Il n'y en avait rien à cirer de Babylone comme d'elle. Babylone avait de l'importance dans la seule mesure où elle les enrichissait, où ils y trouvaient leur propre intérêt. C'est ça le monde. Mais ils pleurent donc en raison de leur perte, de ce qu'ils perdaient. On va en parler un peu plus tard, de cet effet-là aussi. La complicité du monde n'est jamais faite d'amour. J'aurais aimé avoir un amen tonitruant là-dessus. Amen. Alléluia. La complicité du monde n'est pas faite d'amour, elle n'est faite que d'intérêts communs. On est réunis. Regardez Judas, lorsqu'il va voir les sacrificateurs pour dire « Je vais vous livrer Jésus, ah, t'es notre chum, hein, les gros bisous, la grosse accolade. » D'après ça, bon, on n'a plus besoin de toi, tu vois. Hein? Est-ce qu'on est allé l'empêcher de se pendre ou de faire du suivi psychologique avec lui? Non, non. Il ne servait plus à rien après. Ça, c'est le monde. C'est le monde dans ses combines. Tant que nous avons des intérêts communs, ça va bien. Et le concept du summum bonum, le concept du plus grand bien qu'on peut faire, il est à partir de cela, il est fait à partir de cela. Quel bien ça va nous apporter, là, nous, comme communauté? C'est notre intérêt qui est en cause, vous voyez? Ça a l'air très noble, mais c'est hyper égoïste en bout de ligne. Alors, si vous ne servez plus à rien, on veut mon recyclage, s'il y a du recyclage. On ne trouve pas cette empathie qui dirait « Ah, oh, pauvre Babylone! » On va faire tout ce qu'on peut pour la consoler, absolument pas. Comme on disait à l'époque, le monde s'intonise WIIFM, What's in it for me? Hein? Il n'y a pas d'autre intérêt que What's in it for me? Nous avons ici des signes de deuil, mais nous n'avons qu'un signe de repentance. Les marchands représentent un deuxième groupe en deuil de la chute de Babylone, alors qu'ils perdent leur opulent, leur fastueux marché de leurs produits de luxe. Verset 11. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Ils voient donc leur source de revenus complètement tarie, asséchée. Et tout ce qui avait de la valeur à leurs yeux s'évanouit. Le royaume du monde n'a d'autre richesse que ce qu'il y a dans le monde. C'est dans l'ordre des choses, hein? Dans le royaume du monde, toute l'attention est centrée sur les choses du monde. Il ne semble pas exister d'autres richesses, l'argent, la facilité, la gloire. Nous avons souvent tendance à croire que nous vivons la période la plus prospère de l'histoire de l'humanité. Les historiens nous mettent très en garde contre cela. L'époque de l'Empire romain était beaucoup plus riche, vivait beaucoup plus dans l'abondance et dans la facilité que nous le faisons aujourd'hui, malgré qu'on vit dans des beaux carrosses, hein? On n'a pas douté. Les historiens refusent toute comparaison entre les richesses de l'Occident et celles de la Rome antique. Les citoyens de Rome baignaient dans une opulence qui surpasse toute imagination. Aristide, un écrivain du IIe siècle, écrivait ceci. « Tous les produits de la terre et de la mer, tout ce que chaque saison apportait et que tout pays produisait, les produits des rivières et des lacs, les arts des Grecs et des barbares, de sorte que si quelqu'un voulait voir toutes ces choses, il n'avait qu'à visiter Rome. » Un peu plus loin, tout coulait à flot à Rome. La marchandise, les cargos, les produits de la terre et des mines, les produits de tout art qui aient pu exister, c'était Rome. Rome vivait dans la plus grande extravagance. L'historien Suetonius, au IIe siècle, aussi écrit que l'empereur Caligula, on sait que c'était un bon garçon, hein, il avait eu l'heureuse idée de nommer son cheval président du Sénat. Remarquez, il était peut-être pas pire que le président du Sénat qu'on retrouve parfois dans nos mouvements politiques, mais un cheval président du Sénat, on repassera peut-être. Hein? Enfin, ça devait être un bon cheval. Il avait inventé un bain avec un mélange de produits dans lequel il se baignait, là, de sorte qu'il pouvait boire l'eau de sa baignoire, en savourer les bebules, tout en se nettoyant. Il faut quand même le faire. C'est pas mal. On dit que l'empereur Néron, on rapporte que l'empereur Néron ne portait jamais deux fois la même tenue vestimentaire. Qu'il ne voyageait jamais sans un millier de carrosses. C'est du carrosse. Et qu'il ferrait ses mules avec des sabots d'argent. Hmm? On n'est donc pas surpris de la débandade des marchands au verset 12 et 13. Il n'y a plus personne qui achète. Même Néron, hein? Même tout le groupe, même l'empereur. On est arrivé à un point, pour quelque raison que ça puisse être. Manque de personnel, manque de production, on ne veut pas donner libre cours à notre imagination, mais une chose est certaine, c'est quand le Seigneur a jeté son jugement, ça a mis un terme à cette consommation maladive. Personne n'achète plus leur cargaison d'or. Je trouve ça intéressant que la Bible prenne soin de nous énumérer tout cela. Il n'y a plus rien qui se vendait, puis ça aurait réglé le cas. Non, il les nomme par éléments individuels. Cargaison d'or, cargaison d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'armes d'hommes. Je n'ai pas donné aux dames le goût de les magasiner après le culte, là, mais hein, on mentionne les produits, puis hein, ça chatouille un peu à l'intérieur. J'ai vu Maman André baisser la tête, là, puis regarder sa carte de crédit. Impressionnant comme déclinaison de produits. C'est impressionnant. Mais au terme de cette liste, pas je l'ai remarqué, nous retrouvons des esclaves humains. On retrouvait toutes ces richesses-là et des somas et des psuchés et des corps et des âmes. Voyez-vous? Ce n'était que des corps. Le respect de l'humain venait littéralement d'être évacué. Et ça nous en dit long sur le peu d'égard qu'on démontrait face à la... Ça me fatigue, ça, je m'excuse. Est-ce qu'on peut le fermer? Je parle assez fort de toute manière pour que vous m'entendiez. Ça vous fatigue pas, vous autres?
Oui.
Oui, OK. Quand vous allez voir mon âge, ça va vous fatiguer encore plus. Alors voilà, merci beaucoup. Donc, ça nous démontre un peu le peu d'égard qu'on démontrait face à la vie humaine. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sans référentiel, l'homme n'est plus à l'image de Dieu, mais une commodité. Notre ancien voisin, Diane et moi, lorsqu'on vivait au lac de l'Âge, il était professeur de philosophie. Et lui, c'est extrêmement important, il ne fallait pas tuer une mouche, hein? Il fallait la convaincre de sortir par quelques moyens que ce puisse être. Alors un jour, je lui ai demandé sur mon patio arrière, « Tu t'en vas sur la rue, tu as une mouche qui passe, puis tu as un enfant qui traverse, laquelle que tu sauves? » Parce qu'il n'y a plus d'échelle de valeur existentielle, voyez. Quand on n'a plus comme référentiel le Dieu souverain, l'homme n'est plus à l'image de Dieu, il n'est qu'une bête comme les autres. Pourquoi est-ce qu'il se revendiquerait d'une telle importance, voyez? Alors c'est là où nous en étions à Rome, c'est là où nous en sommes dans la richesse, c'est là où nous en sommes dans cette super abondance. Et le verset 14 d'ajouter, « Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. » Et le verset 15 à 16 vient encore tourner le fer dans la plaie, en rappelant que cette extravagance matérialiste dans laquelle ils avaient investi leur âme est à jamais perdue. Devant le juge de l'univers, l'extravagance est perdue. L'extravagance matérialiste est perdue infiniment plus. Devant le juge de l'univers, elle se retrouve vide et nue. Finalement, il y a un troisième groupe d'endeuillés. Versets 17 à 19. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés, et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, « Quelle ville était semblable à la grande ville ?» Ayant en deuil, ils jetaient de la poussière sur leur tête et disaient « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence, tous ceux qui ont des navires sur la mer, pardon, en une seule heure, elle a été détruite. » Tous les pilotes, les marins, qui regardent de loin et qui voient le tout s'effondrer en fumée littéralement, se rappellent sa grandeur et sa splendeur. Ils peuvent à peine en croire leurs yeux devant cette ruine totale, de même que, bien sûr, l'effondrement de leurs espoirs et de leurs attentes, hein? Et ils expriment leur douleur en jetant de la poussière sur leur tête, symbole de deuil, symbole d'une profonde affliction. J'aimerais mentionner au moins deux éléments, puis parce que je reviens sur le premier que j'ai touché tantôt. Deux éléments qui devraient retenir notre attention. Premièrement, les endeuillés demeurent à distance. On ne se rue pas pour aider. On reste à distance et On pleure sur soi. Ils demeurent à distance. Ils ne s'approchent pas en raison de leur crainte, nous est-il dit au verset 10. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » On en a parlé brièvement un peu plus tôt, mais je le rappelle, ils se lamentent sur eux-mêmes. Ils se lamentent sur ce qu'ils ont perdu, et non sur Babylone ou sur son peuple. Ils ne font aucunement montre d'une main secourable, de compassion ou d'amour, du véritable amour. C'est précisément ce qu'est le monde. Plus vous êtes mondain, moins vos relations sont réelles. Ah, ça peut être très enthousiasmant. On peut avoir de beaux parties ensemble, des moments extraordinaires ensemble, beaucoup de plaisir ensemble. Mais la véritable relation ne se crée pas là. Elle va beaucoup plus loin que ça. Elle vient du tréfonds du cœur, d'un cœur régénéré. Donc, plus vous êtes mondain, moins vos relations sont réelles et agréables. William Barclay écrivait, « C'est l'une des lois de la vie. Si les gens placent leur bonheur dans les choses matérielles, ils vont passer à côté des plus grandes de toutes, l'amour et l'amitié des autres. » Donc, ces gens-là se plaignent de leur perte. Ils étaient déjà, humainement parlant, extrêmement pauvres, vous savez, infiniment pauvres, même avant la chute de Babylone. Nous devons nous rappeler que cette vision se veut un symbole du jugement final. Le jugement final, alors que non seulement Babylone et Rome se retrouvent au plancher, mais tout notre monde, tout ce système décadent, tout ce système idolâtre. Le jugement final viendra mettre un terme à l'histoire. Quand on parle d'histoire, on parle bien sûr de notions temporelles. Quand on entre dans l'éternité, on ne parle plus d'histoire. Hein? Il n'y a plus d'hier, de demain et d'aujourd'hui. Personne ne sera épargné, sinon ceux et celles qui vivent en relation avec le Christ Jésus, qui pour nous a porté le jugement. Dans un deuxième temps, il nous faut noter la soudaineté et la rapidité de ce jugement-là dans la grande ville. Ça, c'est intéressant parce qu'on en a des exemples pratiquement au quotidien. On regarde aux nouvelles et on voit des catastrophes énormes qui se produisent. On voit un avant et un après. On parlait au Texas, entre autres. En 45 minutes, l'eau a augmenté de 26 pieds. Qu'est-ce que ça donne en mètres? Ça, je ne sais pas trop quoi. Mais c'est beaucoup, 26 pieds. Moi, je suis un vieillard qui pense en pieds, là. Ça fait au moins 70 mètres.
Non, ça fait 26 pieds.
Oui.
Non, ça fait environ 8.
Oui, excuse-moi. Oui, on divise par 3. Oui, 8 mètres. Alors, c'est de l'eau, hein? Et en 45 minutes, alors les gens qui étaient au lit, là, on n'a pas eu le temps d'évacuer, et il y a un grand nombre, bien sûr, de décès. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est comme ça une catastrophe. Jésus dit qu'il va revenir comme un... Voilà. C'est pas le vendeur Familex, hein? C'est pas le gars qui fait du porte-à-porte, hein? Je vais venir comme un voleur. Le voleur, il n'envoie pas une petite note avant, je m'en viens voler telle date à telle heure. Ça arrive subitement. Les jugements qu'on voit déjà sur cette terre, qui sont préfigurateurs du grand jugement dernier, arrivent ainsi et nous disent « Wake up, baby! » Parce que le jugement final va arriver de la même façon. Se tenir prêt. Se tenir prêt. Combien de fois la parole ne nous dit pas, ne nous rappelle pas l'importance de nous tenir prêt? Donc, verset 10, ils diront, « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu des jugements. » Pas été long, une petite heure, une toute petite heure, et c'était passé. On est là aujourd'hui, serons-nous là demain. Il n'y a pas de pérennité pour les faux dieux dans laquelle... ou dans lesquels ils s'étaient investis. Un souffle du ciel, et c'est leur disparition immédiate. Lorsque la patience de Dieu, et j'ai choisi l'expression, a atteint sa pleine mesure. J'ai employé l'expression pleine parce que c'est le mot pléroo, qui veut dire lorsqu'elle est pleine. Hein, c'est une belle image. Quand on dit j'en ai plein de casse, hein, j'en peux plus, ben c'est ça. Quand la patience de Dieu est pleine, le jugement va arriver. Et ça va se produire ainsi, un jugement qui descend. Mon deuxième point, c'est la joie dans le ciel devant la fin de Babylone, les versets 20 à 24. Pardon. Lorsqu'on arrive au verset 20, on change de perspective. Faites du bien. On change de perspective complètement. On n'entend plus de lamentation, là, ici. Hein? On n'entend plus les lamentations des rois, des marchands, des marins, mais on entend une déclaration, une explosion de joie et d'allégresse. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. En illustrant la chute de Babylone, je ne laisse aucun doute qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. C'est pas une mauvaise journée, comment on n'a pas de sorte d'expression aujourd'hui, un caprice de dame nature ou quoi que ce soit d'autre. Non, c'est le jugement final que Dieu exerce sur Babylone. Et il le démontre en adaptant une scène qui nous avait été rapportée dans les prophètes. Ça, c'est la base même de l'herméneutique. Hein? La parole s'interprète par elle-même. Nous lisons dans Jérémie, chapitre 51, versets 60 à 64, où il est écrit « Tous les malheurs qui doivent tomber sur Babylone. » Jérémie écrivit dans un livre « Tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. » Jérémie dit à ses rajas « Lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles-là et tu diras « Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit, qu'il ne serait plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Et quand tu auras achevé la lecture du livre, tu attacheras une pierre et tu le jetteras dans l'Euphrate en disant, ainsi Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas de ses malheurs que je mènerai sur elle. » Jérémie est en train de dire l'Apocalypse. Maintenant, alors que Jean considère la fin de l'histoire, c'est-à-dire la tombée du jugement sur le système mondain babylonien, nous lisons au verset 21, « Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il le jeta dans la mer. » Il aurait pu dire comme disait Jérémie il y a bien longtemps, parce que c'était effectivement les paroles prophétiques de Jérémie. En disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande, et on ne la retrouvera plus, la grande meule. » La grande meule est jetée jusqu'au tréfonds de la mer. C'est le symbole du monde mauvais qui périt dans son idolâtrie et dans son péché. Et ce jugement-là, vous savez, n'a pas manqué non plus de tomber sur Rome, qui a été complètement engloutie, si vous avez fait un peu d'histoire, là, par les hordes de barbares qui affluaient de l'Est. Hein. J.K. Beale décrire les jugements historiques de Tyr, de Babylone et de Rome typifient la chute du royaume final du monde. Tous ces jugements nous rappellent l'Égypte à la mer Rouge, lorsque Dieu a lancé dans la mer Rouge, Pharaon et son armée. Ça, c'est intéressant. Les images hébraïques qu'on trouve. Il a lancé dans la mer Rouge, Pharaon et toute son armée. Hein, la puissance de Dieu. On trouve le même verbe, d'ailleurs, dans Jonas. Lorsque le Seigneur sort de son armoire une tempête et qu'il l'envoie contre le bateau. Ensuite, il sort un grand poisson. C'est très, 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 très imagé. Et Dieu qui lance ces événements-là. Verset 21-23, nous avons une espèce d'eulogie du jugement divin, alors que l'expression « ne plus » apparaît à 6 reprises. Babylone elle-même ne sera plus, et avec elle le son de la musique, et l'on n'entendra plus. Chez toi, les sons des joueurs de harpe, les musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. La musique, c'est une bénédiction. Les harpistes et les chanteurs s'exécutent dans des circonstances joyeuses. Et les trompettes retentissent pour des cérémonies ou retentissent à l'occasion des jeux. Mais maintenant, le jugement de l'Alliance vient réduire tout cela au silence. Parce que c'est le jugement de l'Alliance. Nous sommes des créatures d'Alliance. Quel contraste avec ce grand silence-là. Tous les bruits qu'il y avait sur cette terre qui se taisent et les cris et les chants d'allégresse qu'on entend au ciel avec les rachetés et les sauvés. Et il en va ainsi pour le reste. Le bruit du travail de ces artisans et de l'industrie au quotidien ne sera plus entendu. Verset 22. Qui plus est, la lumière de sa lampe ne brûlera plus. Il ne restera que les ténèbres et les acclamations de joie et de fête se seront tues. Verset 23. La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Voyez-vous les ne plus, il y en a six qui viennent comme ça à la une. La bénédiction de la joie et de l'amour, donc, ce lien d'alliance, de la fidélité humaine, la voix de la romance, deviendra complètement muette pour les perdus. Je pense qu'on a besoin de se dire qu'on s'aime. Nous qui sommes des croyants. Parfois, on est impatient, on est irrité. On a besoin de romantisme et de se dire qu'on s'aime. C'est factice chez le monde, mais c'est une réalité pour nous, croyants. On a besoin de le dire, de le démontrer et de le vivre. L'amour, la plus grande et la plus intense bénédiction pour l'homme, ne survivra pas pour ceux et celles qui sont assignés à l'enfer. Jérémie 25, 10 à dire, « Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. » Et devant l'horreur de ce jugement, vous savez, on serait peut-être porté à se demander pourquoi est-ce que l'ange appelle les croyants à se réjouir au verset 20? C'est une question qu'on se pose nous-mêmes. Hein? Comment est-ce qu'on va réagir lorsque Dieu va revenir dans son jugement, qui va nous prendre avec lui pour l'éternité et qu'on va laisser derrière nous? Des aides qui nous sont immensément chères. Si vous êtes parents, vous savez comment on aime nos enfants. On va les laisser derrière, sachant qu'ils s'en vont pour le jugement éternel. Ça peut être un conjoint, ça peut être un père, une mère, quelqu'un qui est cher à notre cœur. Et nous, on s'en va dans la gloire et on les laisse derrière. Comment pourrons-nous nous réjouir? C'est une question importante qu'on se pose. Bon, on se dit, Dieu va s'organiser avec ça, on peut rien croire. Mais on a besoin, quelque part, de comprendre comment ça va se passer. Rappelons-nous, la réaction, comment il s'appelait lui, d'Ève, fils sont morts dans la même journée pour avoir amené du feu étranger sur l'autel. Hein? Il murmurait un peu. Et Moïse lui dit, Dieu sera glorifié par ceux qui s'approchent de lui. Et subitement, Aaron est devenu très paisible, très calme, très serein. Je pense qu'il y a quelque chose de presque prophétique là. Et on en trouve les raisons. Soyons bien au clair qu'il n'y a ici aucun désir de vengeance chez les chrétiens. Même envers leurs ennemis, notre joie viendra du fait que justice a été faite. C'est notre modus vivendi, le désir de la justice, n'est-ce pas? Nous avons d'ailleurs une triple réponse au verset 23-24. Tes marchands étaient les grands de la terre, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. La première cause du jugement, on l'a mentionné encore et encore, c'est l'idolâtrie de Babylone. N'a pas à Dieu. un tellement beau verset dans Romains 1 qui traite abondamment de cela et qui affirme sans 20, ils sont donc inexcusables. En apologie, c'est beau. Ils seront donc sans aucune apologie. Aucune défense à présenter. Diablement inexcusable. Le cri de l'humanisme. Un bonhomme brillant au niveau humain, il est extrêmement brillant, mais il n'a jamais trouvé véritablement celui. Il n'a jamais trouvé point à la. Il regardait, il analysait. Il grandir dans la connaissance de. Il s'est converti. Bon, pas, mais c'est le Seigneur Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Qui appartiennent au Christ. Je suis en train de lire, j'ai une très tout ce qui est arrivé au Christ Jésus dans les psaumes est arrivé symboliquement. Le vrai fils de David. Le peuple de Dieu se réjouit à la fin de ses souffrances au même. Permettez-moi si on va voir. Sur la on peut en jouir. Passage du jugement. Pour qui aurait pensé que l'Empire romain, c'était... Punir le chiffre. En vue, hein? quand ton plafond coule, que, enfin, on se laisse tellement faire dire ça. Et qui ne dure qu'un bref moment. Mais l'éternité, comme disait quelqu'un, ça va être long, surtout vers la fin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout. Alors que ton ne leur a été d'aucun secours. Merci que tu es moi. Tu es le Seigneur Jésus-Christ dont le sang est d'une puissance telle lavé. Tu as tout nettoyé de sorte que nous sommes des justes en Jésus-Christ et nous t'en bénissons alors que nous nous apprêtons maintenant à nous approcher de la table sainte. Amen.